Salut, c'est Odile.
Salut, c'est Olivier.
Salut, c'est Nathalie.
À la bonne heure, le mag Région Sud-Est.
Des musiques, des chroniques, des invités.
De midi 10 à 13h.
À la bonne heure.
Quoi ?
À la bonne heure.
Sur Fréquence Mistral, bien sûr. Et ça commence maintenant. Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, donc, les invités du collectif de la coopérative Le Top pour nous parler un peu de l'actualité de ce cinéma, ancien cinéma, qui enfin va retrouver de la vie. Voilà. Place à nos invités du jour. Il s'agit donc de Sandrine Estève et de Jean-Luc Velay, si c'est bien ça. Et puis, on va parler du Top, où ça en est. La première pierre a été posée pour les travaux, hein, c'est ça, les travaux ont été
absolument, on est ravis.
Inaugurés en présence du préfet.
Alors en présence bien sûr de Marc Chapouy, le préfet des Alpes-de-Haute-Provence, en présence de Madame le maire de Digne-les-Bains, en présence aussi de représentants de la DRAC, du département, de la région et aussi de la Banque des Territoires qui est notre accompagnateur financier pour la partie privée du financement du projet.
On rappelle que c'est devenu donc une coopérative.
C'est ça, l'association du Top existait depuis 10 ans, c'est l'association qui porte le projet depuis le début.
Qui s'appelait
Les Potes of the Top.
Les Potes of the Top.
Et ouais. Cette association a été dissoute pour se transformer, ou elle s'est transformée plutôt en une coopérative, une SIC. Alors Jean-Luc,
la SIC, société coopérative d'intérêt collectif.
C'est ça, voilà. Et le but étant de pouvoir un peu élargir au plan de la gouvernance, parce qu'une société coopérative permet d'accueillir en son sein différents collèges qui incluent à la fois les bénéficiaires du futur tiers-lieu, les financeurs, les acteurs culturels, locaux, etc., etc. Donc ça nous permettait d'élargir beaucoup plus largement que l'ancien CA du Top. Nous étions une dizaine à porter ce projet, mais la volonté c'était d'ouvrir vraiment à d'autres... à tous les acteurs locaux, en fait, et tous les bénéficiaires. Alors même si l'association a été très large, puisqu'on a eu jusqu'à 700 adhérents, faire participer par collège les acteurs, c'est les impliquer d'autant plus.
Et si je peux me permettre d'ajouter un point, Sandrine, sur ce que tu dis, c'est aussi responsabiliser les différents acteurs, puisque au lieu d'être membres simplement d'une association, ce qui est déjà quelque chose, là, ils deviennent sociétaires de la coopérative en prenant une ou plusieurs parts sociales, donc ils deviennent acteurs au sens fort du terme. Et d'ailleurs, actuellement, on dénombre à peu près un peu moins de 300 sociétaires donc, du Top, de l'association, enfin de la coopérative, pardon, sachant que c'est un principe de coopérative qui est très strict, c'est-à-dire que l'on prenne une ou plusieurs parts sociales, on a le même nombre de voix, c'est-à-dire une voix pour les décisions qui sont prises en Assemblée Générale. Ça évite comme ça que certains gros groupes financiers éventuellement puissent prendre la main, avoir une grande emprise sur la coopérative. Et le fait que ce soit une SIC, donc une société d'intérêt collectif, au lieu d'être une SCOP, qui sont la forme la plus classique des coopératives, ça permet aussi d'ouvrir non seulement à des individus, à des sociétaires, mais également à des entreprises, à des personnes morales qui peuvent aussi être intéressées par le fonctionnement. Et donc, ça nous permet d'avoir un plus grand empan de sociétaires.
C'est ça, des associations peuvent être sociétaires.
Exactement, c'est le cas. Et d'ailleurs, on va en discuter certainement, mais c'est aussi lié au fait que ce tiers-lieu culturel qu'on est en train de créer, il va être ouvert à tout un tas d'utilisateurs, en particulier des associations qui existent déjà, qui pourront utiliser le lieu pour certaines activités liées à leur fonctionnement.
Et voilà, peut-être qu'il faut qu'on revienne un peu à la genèse du projet, parce que là, on est arrivé très vite sur le côté technique, le passage de l'association à la coopérative. Mais le but de tout ça, c'est quand même d'essayer de réenchanter un peu le centre-ville de Digne-les-Bains avec ce cinéma qui était fermé depuis 2002, donc depuis plus
23
de 20 ans. Depuis
ouais.
plus de 20 ans, ouais. Qui a quand même fait rêver beaucoup de Dinois, hein, qui a accueilli, qui existait depuis les années 50, qui a accueilli des grands noms de la chanson aussi, puisqu'à l'époque, ce n'était pas forcément un cinéma. C'était
prévu pour être une salle de spectacle. Ce fut d'ailleurs une salle de spectacle pendant quelques années, à une époque où, un peu lointaine. Donc le Lido, puisqu'il s'appelait comme ça, a été inauguré au printemps 1952. Et au départ, c'était une salle de spectacle et un dancing. Et effectivement, ça allait rester quelque temps. De grands noms de la musique ou des variétés de l'époque sont venus à Digne. Et en particulier pour ceux qui sont les plus anciens d'entre nous, l'inauguration, elle a été faite avec le grand orchestre de Marcel Zanini, dont peut-être certains se souviennent. Il a fait un peu, dans les années 70, il était connu plutôt pour de la variété. À l'époque, c'était du jazz, la musique des années 50, on sortait de la guerre ou presque, et c'était la musique du jazz. Et puis plus tard, c'est devenu un cinéma, le Lido, que beaucoup d'entre nous ont connu. Puis cette grande salle du Lido, unique, s'est transformée dans les années 70-80 en trois salles pour devenir le Top. Ce cinéma qui a fermé ensuite, un peu plus tard, donc une vingtaine d'années.
C'était après. Donc par la famille, tenue par la famille Brousteau. Hein,
exactement.
Et Madame Brousteau pendant toutes ces années, en fait.
Bien sûr. La famille Brousteau qui détenait tous les cinémas de Digne à l'époque.
Parce qu'il y avait aussi celui qu'on appelait le LEM au début. Après, c'est devenu le Cinoche.
Le Cinoche. Il y avait le Régent. Qui était aussi détenu.
Ah, c'était aussi bien avant encore.
C'est ça,
Régent qui était un cinéma pornographique quand même.
Alors... qui le fut un petit moment, mais pas très longtemps. Mais
pas
moi, j'ai connu le Régent, qui était le cinéma du Ciné-Club, par exemple, dans les années 70. Et effectivement, les profs de philo, alors il y avait le couple Kerel pour les plus anciens, monsieur et madame Kerel, qui étaient enseignants au lycée de Digne, avaient créé un Ciné-Club à Digne, qui a d'ailleurs qui a perduré de nombreuses années. Et on allait voir des films Ciné-Club au Régent. Et comme vous le dites, à un moment donné, mais toute la France a été frappée par ça a été le développement des chaînes de télévision. On est passé d'une chaîne unique à deux, trois ou quatre chaînes ou davantage. Et ça a été un coup dur pour les cinémas. Et une manière de maintenir le cinéma, ça a été de faire passer au cinéma ce qui ne passait pas à la télévision, c'est-à-dire les films pornographiques.
D'accord.
Et c'est ce qui est arrivé à ce cinéma pendant quelques temps, en effet.
Merci Jean-Luc pour cette information. Alors en fait,
mais le Régent, il a eu une vie moins longue que le Lido. Enfin.
Non. Au contraire,
non.
Si je peux me permettre,
oui,
en fait, dans les années 50, le Régent existait déjà avec un autre cinéma que moi je n'ai pas connu, qui s'appelait le Rex. Et après, le Lido s'est ajouté. Et le Rex a fermé, certainement. Et donc, pendant très longtemps, il y a eu le Lido et le Régent. Et puis voilà, le Régent a fermé avant le Lido, qui est devenu Top. Mais c'est un cinéma qui a vécu assez longtemps, le Régent.
D'accord. Et donc, voilà, et ensuite, la fermeture.
Fermeture pendant 20 ans.
Il y a eu aussi de beaux festivals dans ce cinéma aussi. En tout cas, il y a eu Annie Girardot, il y a eu des tas d'acteurs, d'actrices connus et de réalisateurs connus qui sont venus monter les marches.
Bien sûr.
C'est vrai que c'était...
Pour peut-être finir avec cette chronique historique, on est en train d'essayer de reconstituer l'histoire de ce cinéma. Donc on a récupéré, quand on a vidé les lieux pour le début des travaux, un grand nombre de documents dans lesquels on retrouve effectivement les films qui ont été passés, les dates auxquelles ils ont été présentés. Et on espère, tout n'a pas été encore dépouillé, y trouver aussi des informations sur les artistes qui sont venus à Digne pour les spectacles dans cette grande salle.
Ouais, ça va être passionnant. Alors ça, c'est un projet...
C'est un projet connexe, si vous voulez. On va faire revivre ce lieu, on va en parler un petit peu, mais on n'a pas oublié que c'est un lieu qui a aussi une histoire. Et d'ailleurs, on aimerait mettre en valeur cette histoire pour que les gens sachent qu'ils sont dans des murs, dans des locaux qui ont été restaurés, mais qui ont commencé à exister au tout début des années 50 et qui avec un passé riche.
C'est ça, on raye pas d'un trait, au contraire, en fait ce projet revient à l'initial avec une grande salle comme elle était au début, mais on a à cœur quand même de garder cette histoire vivante, alors avec le travail de Jean-Luc sur les archives, et puis il a été réalisé aussi un film avec une danseuse, un réalisateur qui déambule dans ce Top... vide avant qu'il soit détruit sous cette forme-là. Donc un beau travail artistique qui sera montré très prochainement, j'espère, à tous les amoureux du Top.
Alors, Sandrine Estève et Jean-Luc Velay, vous allez nous parler, puisque bien sûr, là, les travaux ont commencé. C'est un chantier participatif, c'est ça ?
Alors, il y a plusieurs phases sur ce chantier, effectivement. Il y avait des choses que les bénévoles pouvaient faire. C'est-à-dire vider déjà tout ce qu'il y avait dans le top. Ça a eu lieu au mois de janvier, c'est ça, je ne sais plus, Jean-Luc. Voilà, on a fait appel à tous nos bénévoles pour venir vider les sièges qui restaient, parce qu'il en restait au moins 300. Donc on les a évacués et recyclés, en fait, ils seront recyclés. Et puis tout ce qu'il y avait, tout ce qu'on pouvait enlever avant le curage. Le curage, c'est le début des travaux où on pète tout, en fait. Et donc, ces choses-là, les bénévoles pouvaient le faire. Ça permettait à la fois de faire baisser les coûts, parce que si l'entreprise effectue ce travail, elle le facture, bien entendu. Donc, on a le souci de rester dans notre budget qui a déjà un petit peu explosé. Donc, on essaie de préserver un petit peu les coûts. Donc, chantier participatif. Mais également, fédérer du monde autour du projet, c'est aussi les faire participer. Donc, ça a un double enjeu de ce point de vue. Donc, on a, premier chantier, on a enlever tout ce qui était enlevable facilement par des bénévoles, mis en déchetterie, etc. Et puis, on a dernièrement vidé aussi la cuisine du Lido, qui finalement vient d'être rachetée par le top pour pouvoir faire un projet global.
Ouais. En fait, le Lido, donc c'est pour ceux qui connaissent, c'est la partie là, au rez-de-chaussée du top, qui avait été séparé du top il y a quelques années pour devenir un bar-restaurant. Et là, très récemment, comme l'a dit Sandrine, on a aussi racheté ce restaurant, ce qui permet effectivement d'avoir un projet global total, d'avoir une maîtrise sur l'ensemble des lieux. Et je reviens juste sur le chantier participatif. Ça a été un moment, donc les bénévoles sont venus pour prêter la main. On a soulevé plus de 300 sièges, ce qui... Et surtout, c'était une émotion quand même, parce que dans ces sièges étaient restés des souvenirs de cette époque. On retrouvait des papiers de bonbons, ou même des bonbons de l'époque des années...
Les gamins ont ramené des pièces.
Des pièces de monnaie, des francs, des centimes de francs, voilà, des traces de vie, pour dire, de ce cinéma. Mais ça a été un gros chantier pour faire ça.
C'est ça. Et alors depuis, les entreprises professionnelles ont pris la main. Donc le curage a été effectué. Je pense qu'il est déjà presque terminé. Et que on va maintenant, c'est la phase de désamiantage.
Elle est terminée. Depuis ce matin.
Ah ben parfait.
J'y étais tout à l'heure. Effectivement, le désamiantage, c'est un chantier des années 50. Donc il y avait pas mal d'amiante, comme on peut l'imaginer. A été terminé. Et là, l'entreprise qui fait le gros œuvre, que je peux citer, c'est l'entreprise Cosépi de Digne, est en train de reprendre le travail de déblaiement d'un certain nombre de matériaux. Et on retrouve le volume initial du cinéma Le Lido quand il a ouvert cette grande salle. Et on voit aussi toute la structure métallique du bâtiment. Voilà.
Le jour de la première pierre, moi, j'étais pas encore... la pose de la première pierre, on était donc conviés. Alors, un petit noyau, hein, parce que comme c'était un chantier, on aurait bien aimé convier tous les sociétaires, mais c'était pas possible. Donc, les officiels et le CA restreint, en fait, a pu assister. Et donc, moi, c'est la première fois que je rentrais dans le cinéma... déjà un peu déblayé, et ça m'a fait une émotion, parce que on se projette déjà dans la future salle, parce que ça va être ça. Quand on montera les escaliers, on sera projeté dans ce grand espace, et ça m'a procuré une émotion. Après 10 ans de travail acharné de l'association, ça fait quelque chose quand même.
Ok, il y a eu beaucoup de changements d'idées, je vais dire, par rapport au départ. C'était l'envie d'une grande salle pour tenir 1000 personnes debout pour des concerts à grande envergure.
Ça a évolué en fonction, en fait, du budget, de ce qu'on pouvait. Oui. Au tout début, on n'avait aucune vision financière de ce qu'on pourrait trouver comme subvention. L'idée était de partir sur un modèle de friche, en fait, type friche de la Belle de Mai, en fait, et de petit à petit réhabiliter une pièce, deux pièces, d'avancer comme ça un peu au fil de l'eau et des chantiers participatifs qu'on aurait pu mettre en place. Et puis finalement le chantier a pris de l'ampleur avec l'arrivée de Mathieu Poitevin avec son cabinet d'architecture caractère spécial. Mathieu Poitevin, c'est celui qui a fait justement, qui est l'architecte de la
friche de la Belle de Mai à Marseille.
Voilà. Et donc, voilà, ça a pris de l'ampleur, mais ça a aussi permis d'enchanter un peu tous les acteurs qui se sont projetés et qui sont plus facilement venus financer, puisqu'on a quand même réussi à flécher autour de cette salle de Digne-les-Bains à peu près 3 millions d'euros
de subventions. Oui, c'est 3 millions d'euros, ce qui est pas rien.
Ce qui permet de flécher vers Digne-les-Bains et au service des Dinois, de la région, du département. Voilà, c'est quand même une belle performance de toute l'équipe et on en est très fiers.
8 ans de travail pour finalement... vous avez bien fait de ne pas baisser les bras.
De ne pas baisser les bras, mais en plus, c'est au service des Dinois, vraiment. Ouais. Les gens disent, oui, c'est un projet privé, mais en fait, c'est un projet privé qui est à destination du public, ouais. Très, très largement du public. L'idée, ce n'est pas d'avoir de la subvention pour faire de l'argent. Avant de faire de l'argent dans la culture, il faut se lever tôt, je pense. Donc, voilà, c'est vraiment un projet qui est au service de la ville et des Dinois.
Oui, d'ailleurs, de ce point de vue-là, il y a la grande salle. De fait, ça, c'est net. Comme vous le disiez, alors c'est pas 1000 personnes, si je me souviens bien, c'est 900 personnes debout pour un concert destiné à un jeune public, par exemple. Et il y aura des gradins amovibles. Et quand on met les gradins, on doit passer à 350 places assises, voilà, et avec tous les intermédiaires possibles. Mais au-delà de cette grande salle, il y a aussi d'autres lieux, d'autres locaux, des espaces plus restreints, plus réduits, qui vont permettre justement, comme on le disait au début, aux associations ou aux groupes qui ont besoin de locaux, de lieux pour des activités multiples, de pouvoir venir utiliser ces lieux, ces espaces, parce que l'idée c'est que ça vive tous les jours, qu'il y ait en permanence des activités, et donc de grandes activités, parfois de grandes manifestations, mais aussi des activités du quotidien, des expositions, enfin voilà. Donc c'est, à ce titre-là, c'est un lieu qui participera à la vie culturelle de Digne en étroite association avec les lieux culturels qui existent déjà, le Centre culturel René Char, et en particulier, et d'autres, la médiathèque. On va essayer surtout de coordonner avec ces différents acteurs de manière à ce que chacun trouve sa place dans cet espace.
On commence déjà à travailler avec la coopérative. On a déjà des liens étroits avec le Centre culturel René Char, avec la médiathèque, avec tous les acteurs culturels locaux. Hein. L'idée, c'est de travailler en collaboration, évidemment.
Parce que moi, je trouve que c'est génial d'avoir une grande salle pour des concerts, pour les plus jeunes, et puis des salles. Mais trouver l'intermédiaire, genre un petit café-théâtre, ça, je trouve que c'est aussi quelque chose qui manque à Digne. Avant, on avait, il y a très longtemps, le Chamois à trois bosses, qui était un lieu où il y avait vraiment 70 à 80 places. C'est quand même aussi sympa d'avoir des petites structures... dans des grandes structures.
Alors, le top sera complètement modulable, en fait. Alors, il sera à la fois très intéressant pour le spectacle debout, parce que moins grand que le Palais des Congrès. Mm-hmm. Donc, pour le public qu'on a à Digne, parfois, 1000 personnes dans le Palais des Congrès debout, ça fait vide. Mm-hmm. Si on a 900 personnes... au top, ça sera super. Voilà, ça fera pas du tout la même impression. Mais la place telle qu'elle est conçue, on pourra tout à fait envisager de resserrer et de faire des petites choses plus intimistes. Ça s'y prête parfaitement.
Et puis, il y a les autres espaces dont on parlait, hein, qui permettent ce genre de choses. Faire, par exemple, il y a quelque chose qui, moi, me tient à cœur. J'aimerais qu'on mette en place à Digne ce qu'on pourrait appeler un café des sciences ou un bistrot des sciences, c'est-à-dire développer ce pan de la culture qui est souvent laissé de côté, qui est moins qu'on considère moins, qui est la culture scientifique, pour discuter, débattre autour de thèmes sociétaux, mais aussi des thèmes qui ont quelque chose à voir avec la science. Et typiquement, un bistrot des sciences, ça pourra trouver sa place au top, dans un petit espace. Évidemment, ce n'est pas le genre d'activité dans laquelle on réunit 900 personnes. Mais...
Ok, et on va venir à... Parce que vous avez un programme, vous avez mis en place une newsletter que vous envoyez... À qui aux adhérents
Aux sociétaires.
Aux sociétaires.
Non, pas uniquement. La newsletter, elle est destinée à toute personne qui en fait la demande, même si les personnes ne sont pas sociétaires. Donc, s'il y a des gens intéressés, il suffit simplement de la demander. On trouve l'adresse mail du top ou le site du top. On a un site web qui fonctionne bien. On peut s'inscrire pour la newsletter.
Là, je vois que c'est écrit « Je deviens sociétaire ». Il n'y a plus besoin de sociétaire maintenant.
Si, si.
Ah, et on
si.
En a toujours besoin, oui, alors, tout
si,
à
si.
Fait.
Ah, d'accord.
On est une force. Hein, ouais. Avoir des sociétaires, c'est avoir des gens, des forces vives qui s'intéressent et qui montrent qu'ils sont intéressés par le projet. Donc ça, c'est bien. Et puis, ben, c'est une manne financière aussi. Et ça nous donne une force vis-à-vis de nos financeurs, hein, d'avoir cette part... Parce que la part sociale est à 150 euros à vie. Une fois qu'on a pris une part, on est sociétaire à vie. Donc c'est une belle manière de s'engager pour la culture dans sa ville.
Et on a relancé une campagne de sociétariat jusqu'au 11 avril de mémoire. Donc s'il y a des auditeurs intéressés, qui n'hésitent pas surtout, ils vont sur le site web Le Top et il y a toute la démarche pour devenir sociétaire.
Et donc ça porte quoi d'être sociétaire?
Alors, déjà, c'est être un acteur privilégié du projet, ça c'est certain, d'être informé plus régulièrement, peut-être, d'avoir la joie de participer à ce beau projet. Et puis, bon, alors c'est sûr que c'est pas comme quand on prend une part dans une entreprise, hein, parce que... avant que Le Top distribue des dividendes, je pense qu'il y aura un petit temps. Mais pourquoi pas, si à un moment donné, en théorie, c'est possible.
C'est tout à fait possible, comme tu dis, Sandrine. Il faudra peut-être un peu de temps pour que ça se... Enfin, ce n'est pas l'objectif non plus. Je ne crois c'est pas ça. Que les sociétaires du Top envisagent ça simplement sur le plan financier. En revanche, ils deviennent acteurs. Donc déjà, ils participent aux prises de décision de la coopérative. Donc chaque année, il y a une ou plusieurs assemblées générales au cours desquelles on discute et on vote les décisions qui sont prises. Donc si les sociétaires, dans leur majorité, ne sont pas d'accord avec l'orientation du projet, eh bien, ce sera l'occasion de le dire. Et puis, il y a aussi des manifestations qui vont être dédiées spécifiquement aux sociétaires. Par exemple, le 20 juin de cette année, de 2025, on a une soirée dédiée aux sociétaires qui se passera sur le plan d'eau, où on a réservé là le local où le restaurant et le sous-sol qui était un dancing avant, donc les noms m'échappent, mais pour les sociétaires, donc ça sera aussi ouvert aux non-sociétaires, on n'est pas complètement fermé de ce point de vue-là, mais voilà, c'est le genre de manifestation qui pourront se produire à destination spécifiquement des sociétaires pour se rencontrer, discuter, échanger de manière un peu moins formelle que dans les assemblées générales.
Donc le 20 juin, ça tombe un samedi, quoi.
C'est un vendredi soir de mémoire, c'est la veille évidemment de la fête de la musique. Et je crois que la fête de la musique c'est un samedi, donc ce sera le vendredi 20 juin.
À partir de quelle heure?
À partir de la fin de l'après-midi, je pense, 17h. Il y aura, a priori, mais Sandrine...
Alors, effectivement, c'est en train de se mettre en place, donc d'accord. On n'a pas tout le
détail,
mais voilà, on vous fera passer l'information.
Oui, voilà, il y aura un spectacle à définir, probablement, et même très probablement, un food truck pour ceux qui veulent grignoter un morceau sur place, et on chantera et dansera jusque, on va dire, assez tard dans la nuit.
Par rapport au festival Le Top qui avait lieu chaque année?
Alors cette année, on fait une pause parce que c'est les travaux, parce qu'on se concentre financièrement parlant. Ouais. C'est compliqué. Évidemment, un festival, c'est des risques financiers. Hein. Il suffit que la météo ne soit pas de notre côté, comme ça s'est produit l'année dernière. Et c'est le four financier assuré. Et donc là, on ne peut pas trop se permettre. Donc on garde nos forces financières et d'énergie et de travail. Mais on prévoit quand même, on commence à se diversifier parce que Le Top, c'est ça, c'est la diversité. On est ravis d'avoir Jean-Luc qui nous pousse à nous dépasser et aller vers d'autres types de cultures avec la culture scientifique. Alors le festival montrait déjà un petit peu ce qu'on préfigurait, un petit peu ce qu'on voulait faire, puisque le festival proposait à la fois des performances artistiques, de la musique à destination du jeune public, de la scène locale et puis la découverte de talents nationaux. Et donc cette année, on se concentre sur un festival de théâtre, le premier festival de théâtre que nous organisons. Mais là aussi, on viendra vous donner plus amples informations quand on en aura un peu plus.
Alors, on en sait un peu plus. Déjà, on sait les dates. Ce sera de mémoire du 5 au 12 octobre. Donc c'est un festival de théâtre organisé par le TOP, qui coordonne l'ensemble, mais qui met en jeu de différents acteurs. Nous, le TOP sera responsable de 2 ou 3 spectacles, mais le reste des spectacles sera assuré par des structures qui sont déjà en place et qui font déjà du théâtre.
Puisqu'il y a déjà le théâtre au 4. Hein.
Exact.
Alors vous allez travailler ensemble ou...
Très probablement, oui. Là, c'est comme le disait Sandrine, c'est en cours d'organisation, mais ce sera le cas. Je sais qu'il y a plusieurs associations qui organisent des stages de théâtre ou des formations de théâtre à Digne qui sont impliquées et qui... Et ça se déroulera sur différents lieux à Digne, donc c'est ce qu'on appelle un spectacle ouvert en termes de lieux aussi, bon, dans les salles de Digne disponibles, voire en plein air, là aussi c'est au mois d'octobre, donc il va falloir un petit peu jongler avec la météo. Mais c'est en cours de montage actuellement et ça sera certainement un très beau moment théâtral à Digne.
Donc, dispatché dans différents lieux.
Oui.
C'est ça.
D'accord. Parce que les travaux, il y en a pour un moment, j'imagine.
Ah ben, l'ouverture n'est pas prévue avant septembre 2026. Voilà. Ouais. On espère que septembre 2026, on puisse faire l'inauguration.
Voilà.
On ne sait jamais avec les travaux.
En attendant, voilà, il y a toujours des animations en attendant.
Oui, le TOP hors les murs, ça fait un petit moment que ça existe.
Ouais,
et
ouais.
Qu'on essaye à la fois de se diversifier en termes de lieux et de partenariats.
Très prochainement, d'ailleurs, il y a un stage de théâtre destiné aux adultes à la fin du mois d'avril. Donc je crois qu'il y a encore des places. Il y a des adultes dinois ou autour de Digne qui ont envie de s'initier au théâtre. Greg Montel, donc le président de la coopérative et le comédien, assurera...
C'est lui qui va animer le stage.
Oui, pour les adultes. Et il y a déjà eu des stages pour enfants assurés par une comédienne marseillaise. Mais en tout cas, j'ai été présent puisque j'ai encadré aussi un peu ces... Et c'était très, très bien. Les enfants, même les jeunes enfants, ont vraiment, vraiment apprécié.
Anaïta est super.
Anaïta, oui.
Donc ça va se passer où, ça?
Alors, ça sera dans des salles de Digne. Alors, c'est une bonne question. Les stages pour enfants, on a demandé aux écoles de mettre à disposition leurs locaux. C'était pendant les vacances scolaires, donc ça a pu se faire. Là, je n'ai pas en tête les lieux, mais il y a des salles de Digne qui sont disponibles. Par exemple, il y a la salle Perchaud, si on veut faire au pigeonnier, qu'on peut utiliser. Il y a également la salle de l'ancien hôtel le long de la Bléone.
L'Ermitage,
qu'on a déjà utilisé pour des stages de théâtre et qui peuvent être utilisés. Voilà. Mais ça sera précisé de toute façon.
Alors, est-ce que tout ça sera précisé il y a un site, le TOP?
Oui. Tout à fait.
Oui, il y a le top.org, je pense. Oui, le top.org est un site web qui
Le top 04.
Alors,
le
généralement, top 04. On tape le top Digne et on trouve un. Oui. Sur Google, il n'y a pas de souci. On est bien, bien référencé maintenant.
Et encore une fois, la newsletter, la lettre d'information est aussi faite pour ça. C'est-à-dire qu'on envoie toutes ces informations par cette lettre.
Et si on n'est pas très numérique, on peut même aussi se balader autour du chantier du TOP. Alors attention, soyez prudents. On se déplace de l'autre côté, puisque les travaux ont un peu grignoté momentanément, on espère le moins longtemps possible, le trottoir qui longe le TOP. Mais si vous vous baladez par là, vous aurez aussi des nouvelles, puisque chaque mois, les nouvelles du chantier sont annoncées par voie d'affichage, un beau panneau que Jean-Luc est allé préparer ce matin.
Exact. Donc vous pourrez voir ce panneau affiché. Donc donne des nouvelles davantage du chantier proprement dit, mais éventuellement aussi on pourra annoncer sur ce panneau les activités à venir.
Merci. Tout est dit?
Oui. Bon, écoutez.
Et alors vous, Jean-Luc, vous venez de quel corps de métier pour
connaître... Alors il se trouve que je suis retraité depuis peu, mais j'ai été chercheur CNRS pendant une quarantaine d'années, donc c'est d'où mon attachement à cette culture scientifique que malheureusement je me suis aperçu au cours de mon activité professionnelle que ça manquait un peu. Alors que souvent on demande aux citoyens de prendre des décisions un certain nombre de décisions qui reposent comme ça sur des connaissances scientifiques dont on ne dispose pas toujours et je trouve que c'est un peu dommage.
Et Sandrine, vous travaillez dans quoi ?
Je vais me faire des ennemis, mais je suis retraitée d'éducation nationale. Je suis partie très tôt, mère de très nombreux enfants. mais je suis actuellement, je retravaille en tant que contractuelle dans l'éducation nationale. Voilà. J'ai élevé les petits et puis je suis revenue travailler un petit peu.
Et donc, si on peut dire juste pour conclure, on l'a déjà dit, mais j'insiste un peu là-dessus, toutes les personnes qui sont intéressées par ce projet sont les bienvenues. Qu'elles veuillent ou qu'elles ne souhaitent pas devenir sociétaires, ce n'est pas grave. Elles demandent à bénéficier de la lettre d'information. Et encore une fois, toutes les bonnes volontés seront vraiment les bienvenues. Plus on est de monde autour de ce projet, et plus le projet sera riche et diversifié, et plus nous, on sera heureux de voir ce projet avancer.
Absolument, Jean-Luc.
Merci, Jean-Luc et Sandrine. Et puis, on va se tenir au courant des actualités.
On vous tient informé.
Top. Merci, au revoir.
Merci beaucoup.
Merci.